Le retour des élites multiples et les difficultés d'une coalition égalitaire. Plus généralement, nous tenterons dans ce livre de mieux comprendre sous quelles conditions des coalitions politiques égalitaires sont parvenues à se former au milieu du XXe siècle pour réduire les inégalités issues du passé, pourquoi elles ont fini par s'épuiser et sous quelles conditions de nouvelles coalitions égalitaires pourraient réussir à émerger en ce début de XXIe siècle. Il faut tout d'abord préciser que les coalitions redistributives de type social-démocrate, au sens large, qui se sont imposées au milieu du XXe siècle, avaient une dimension qui n'était pas seulement électorale, institutionnelle et partidaire, mais qui était avant tout intellectuelle et idéologique. Autrement dit, c'est avant tout sur le terrain des idées que les combats ont été menés et remportés. Il est certes essentiel que ces coalitions se soient également incarnées dans des partis et des élections particulières, qu'il s'agisse d'un parti authentiquement et explicitement social-démocrate, comme le SAP en Suède ou le SPD en Allemagne, qui exercèrent tous deux des responsabilités importantes dès les années 1920-1930. Ou bien, sous la forme du Parti travailliste au Royaume-Uni, qui obtint la majorité absolue des sièges lors des élections historiques de 1945, du Parti démocrate aux États-Unis, au pouvoir de 1932 à 1952 sous Roosevelt puis Truman, ou encore sous la forme de diverses alliances socialistes-communistes en France, au pouvoir en 1936 et en 1945, et dans de nombreux autres pays. Mais au-delà de ces incarnations spécifiques, le fait est que la véritable prise de pouvoir fut d'abord idéologique et intellectuelle. Il s'agissait de coalitions d'idées fondées sur des programmes de réduction des inégalités et de transformation profonde du système légal, fiscal et social, qui finirent par s'imposer à l'ensemble des forces politiques au cours de la période 1930-1980, y compris d'ailleurs aux partis situés plus à droite sur l'échiquier politique de l'époque. Cette transformation s'appuya naturellement sur les stratégies de mobilisation mises en œuvre par les partis sociaux-démocrates au sens large, mais plus généralement sur l'implication de larges parts du corps social, syndicats, militants, médias, intellectuels, et d'une transformation d'ensemble de l'idéologie dominante qui, tout au long du XIXe siècle et jusqu'au début du XXe siècle, reposait sur le dogme quasi-religieux du marché, de l'inégalité et de la propriété. Le facteur le plus important, conduisant à l'émergence de telles coalitions d'idées et de cette nouvelle vision du rôle de l'État, fut la perte de légitimité du système de propriété privée et de libre concurrence, d'abord de façon graduelle au XIXe siècle et au début du XXe, du fait des énormes concentrations de richesses engendrées par la croissance industrielle et des sentiments d'injustice provoqués par ces évolutions, et ensuite de façon accélérée à la suite des guerres mondiales et de la crise des années 1930. L'existence d'un contre-modèle communiste en Union soviétique joua également un rôle essentiel. D'une part, pour imposer un agenda redistributif ambitieux à des acteurs et des partis conservateurs qui souvent n'en voulaient pas. Et d'autre part, pour accélérer le processus de décolonisation dans les empires coloniaux européens et d'extension des droits civiques aux États-Unis. Or, si l'on examine l'évolution de la structure des électorats sociaux-démocrates au sens large depuis 1945, il est frappant de constater à quel point ils se sont transformés, aussi bien d'ailleurs en Europe qu'aux États-Unis, dans des conditions relativement proches, ce qui n'a rien d'évident a priori, compte tenu des origines historiques très différentes des systèmes de partis des deux côtés de l'Atlantique. Dans les années 1950-1970, le vote pour le Parti démocrate aux États-Unis était particulièrement élevé parmi les électeurs les moins diplômés et les électeurs disposant des revenus et patrimoines les plus faibles, alors que le vote républicain était au contraire plus important parmi les plus diplômés et les plus hauts revenus et patrimoines. On retrouve la même structure en France, dans des proportions quasi identiques. Les partis socialistes, communistes et radicaux attirait dans les années 1950-1970 davantage de suffrages parmi les moins diplômés et les revenus et patrimoines les plus modestes, et inversement pour les partis de centre-droit et de droite de diverses tendances. Cette structure électorale a commencé à se transformer à la fin des années 1960 et au cours des années 1970. Et on constate, à partir des années 1980-2000, une structure sensiblement différente de celle des années 1950-1970. Là encore, de façon quasi identique aux États-Unis et en France. Le vote démocrate, comme le vote socialiste-communiste, sont devenus les plus élevés parmi les électeurs les plus diplômés, tout en restant plus faibles parmi les plus hauts revenus. Cela pourrait cependant ne durer qu'un temps. Lors de l'élection présidentielle américaine de 2016, ce sont pour la première fois non seulement les plus diplômés, mais également les plus hauts revenus qui ont préféré voter démocrate plutôt que républicain, d'où un renversement complet de la structure sociale du vote par comparaison aux années 1950-1970. Voir graphique 0.9. Autrement dit, la décomposition de la structure gauche-droite de l'après-guerre, sur laquelle s'était appuyée la réduction des inégalités au milieu du XXe siècle, et dont les élections menées aux États-Unis et en France en 2016-2017 montrent à quel point elle était avancée, est un phénomène qui vient de loin et qui ne peut être correctement appréhendé qu'au terme d'une vaste remise en perspective. Nous verrons d'ailleurs que l'on retrouve des transformations similaires avec le vote travailliste au Royaume-Uni et les votes sociodémocrates de diverses tendances en Europe. Le vote social-démocrate, au sens large, correspondait dans les années 1950-1980 au vote du Parti des travailleurs. Il est devenu, à partir des années 1990-2010, le vote du Parti des diplômés. Nous verrons cependant que les plus hauts patrimoines continuent de se méfier des partis sociaux-démocrates, travaillistes et socialistes, y compris d'ailleurs dans le cas du vote démocrate aux États-Unis, quoique dans les deux cas de moins en moins nettement. Le point important est que ces différentes dimensions des inégalités sociales, diplômes, revenus, propriétés, ont toujours été reliées les unes aux autres, mais seulement de façon partielle. Dans les années 1950-1980, comme dans les années 2000-2020, on peut trouver de nombreuses personnes dont la position dans la hiérarchie des diplômes est plus élevée que dans celle de la propriété et inversement. Le changement important qui a eu lieu concerne la capacité des organisations et coalitions politiques en présence à unir ou au contraire à opposer ces différentes dimensions de l'inégalité sociale. Concrètement, dans les années 1950-1980, ces différentes dimensions étaient politiquement alignées. Les personnes qui occupaient des positions moins élevées de la hiérarchie sociale avaient tendance à voter pour le même parti ou coalition, quelle que soit la dimension considérée. Diplôme, revenu, patrimoine. Et le fait d'être mal placé dans plusieurs dimensions produisait des effets cumulatifs sur le vote. La structure du conflit politique était classiste, dans le sens où il opposait les classes sociales les plus modestes aux classes sociales plus élevées, quelle que soit la dimension retenue pour définir l'identité de classe. Identité qui, en pratique, est toujours profondément complexe et multidimensionnelle, ce qui précisément tend à compliquer la formation de coalitions majoritaires. À l'inverse, à partir des années 1980-2000, les différentes dimensions de l'inégalité sociale ont cessé d'être alignées. La structure du conflit politique correspond à ce que l'on peut décrire comme un système d'élites multiples. Un parti ou une coalition attire les votes des plus diplômés, l'élite intellectuelle et culturelle, alors que l'autre parti ou coalition séduit les votes des plus hauts patrimoines et dans une certaine mesure des plus hauts revenus, l'élite marchande et financière. Parmi les multiples difficultés posées par une telle situation, on trouve notamment le fait que toutes les personnes qui n'ont ni de diplôme élevé, ni de patrimoine ou de revenus élevés, risquent fort de se sentir abandonnées avec cette structure du conflit politique. Cela peut expliquer pourquoi la participation électorale s'est effondrée au cours des dernières décennies au sein des groupes sociaux disposant des niveaux de diplômes, de revenus et de patrimoine les plus faibles, alors qu'elle était tout aussi forte que pour les groupes mieux dotés pendant les années 1950-1970. Si l'on veut comprendre la montée du populisme, terme fourre-tout souvent utilisé par les élites pour disqualifier des mouvements politiques dont ils se sentent insuffisamment aux commandes, il n'est pas inutile de commencer par analyser cette montée en puissance de l'élitisme au sein des structures partisanes. On peut aussi noter que ce système d'élites multiples n'est pas totalement sans rapport avec le régime trifonctionnel ancien, qui se fondait sur un certain équilibre entre les élites cléricales et guerrières, même si les formes de légitimité ont évidemment bien changé. Repenser la propriété juste, l'éducation juste, la frontière juste. Nous tenterons de comprendre de façon approfondie les origines et les implications de cette transformation de la structure des clivages politiques et électoraux depuis les années 1950-1970. Disons-le d'emblée, il s'agit d'une évolution complexe qui peut s'analyser à la fois comme cause et comme conséquence de la montée des inégalités, et qui nécessiterait de nombreux autres travaux et matériaux que ceux que j'ai pu rassembler dans ce livre pour pouvoir être appréhendés de façon totalement satisfaisante. On peut tout d'abord voir cette évolution comme la conséquence de la révolution conservatrice des années 1980 et du mouvement de dérégulation sociale et financière qui en a découlé et auquel les sociodémocrates ont fortement contribué, faute d'avoir suffisamment pensé un modèle alternatif d'organisation de l'économie monde et de dépassement de l'État-nation. C'est ainsi que les anciens partis et coalitions sociodémocrates ont progressivement abandonné toute ambition forte en termes de redistribution et de réduction des inégalités, en partie du fait de la concurrence fiscale croissante entre pays et de la libre circulation des biens et capitaux, qu'ils ont eux-mêmes participé à mettre en place, sans contrepartie en termes de nouvelles règles fiscales et sociales communes, si bien qu'ils ont perdu le soutien des électeurs les moins favorisés, et ont de plus en plus concentré leur attention sur les plus diplômés, qui étaient les premiers gagnants de la mondialisation en cours. On peut également considérer que c'est la montée des clivages raciaux et ethno-religieux, d'abord aux États-Unis, à la suite du mouvement des Civil Rights dans les années 1960, puis en Europe, quand les conflits autour des questions migratoires et postcoloniales ont commencé à se durcir dans les années 1980-1990, qui a provoqué l'apparition de divisions fortes au sein des classes populaires et qui a conduit à l'éclatement progressif de la coalition égalitaire des années 1950-1980, avec le départ graduel d'une partie des classes populaires blanches ou autochtones vers des votes xénophobes et nativistes. Selon la première explication, les sociodémocrates auraient abandonné les classes populaires. Selon la seconde, c'est le contraire qui se serait produit. Ces différentes explications ont sans doute chacune leur part de vérité, mais l'analyse des multiples trajectoires et chronologies suggère qu'elles peuvent être englobées dans un même facteur, l'incapacité de la coalition égalitaire social-démocrate de l'après-guerre à approfondir et à renouveler son programme et son idéologie. Plutôt que de blâmer la mondialisation libérale, qui n'est pas tombée du ciel, ou le supposé racisme populaire qui n'a rien de plus spontané que celui des élites, il est plus constructif d'expliquer ces évolutions par l'idéologie, et en l'occurrence par la faiblesse idéologique de la coalition égalitaire. Cette faiblesse concerne notamment l'incapacité à penser et à organiser la redistribution et la progressivité fiscale à l'échelle transnationale, question qui avait été largement évacuée par les sociodémocrates à l'époque de l'État-nation redistributif triomphant de l'après-guerre et dont ils ne se sont jamais véritablement saisis jusqu'ici, en particulier dans le cadre de l'Union européenne et plus généralement au niveau mondial. Cela concerne aussi les difficultés rencontrées pour intégrer dans la réflexion sur l'inégalité sociale la question de la diversité des origines, question qui ne s'était, à dire vrai, jamais véritablement posée avant les années 1960-1970, dans la mesure où les personnes issues de différentes origines continentales, raciales ou ethno-religieuses, ne se croisaient guère dans les mêmes sociétés, si ce n'est par l'intermédiaire des relations interétatiques et des dominations coloniales. Au fond, ces deux faiblesses posent une même question. Celle de la frontière de la communauté humaine, à laquelle on se rattache pour organiser la vie collective, et en particulier pour réduire les inégalités et bâtir une norme d'égalité acceptable par le plus grand nombre. Le mouvement général de mise en contact des différentes parties du monde, du fait notamment des progrès des technologies de transport et de communication, oblige à revoir en permanence le cadre d'action et à envisager la question de la justice sociale dans un cadre explicitement transnational et mondial. Nous verrons également que le programme social-démocrate n'a jamais véritablement pensé les conditions d'une propriété juste depuis l'échec communiste. Les compromis sociaux-démocrates de l'après-guerre ont été bâtis à la hâte, et les questions d'impôts progressifs, de propriété temporaire et de diffusion de la propriété, par exemple au moyen d'une dotation universelle en capital, financée par un impôt progressif sur la propriété et les successions, de partage du pouvoir et de propriété sociale au sein des entreprises, cogestion, autogestion, de démocratie budgétaire et de propriété publique, n'ont jamais été examinées et expérimentées de façon aussi globale et cohérente qu'elles auraient pu l'être. Le fait que l'enseignement supérieur ait cessé d'être réservé à une mince élite, excellente évolution en soi, a également transformé les conditions d'une éducation juste. À l'âge de l'enseignement primaire puis secondaire, il existait un programme égalitaire relativement simple en matière éducative. Il suffisait de consacrer les moyens nécessaires pour amener la totalité d'une génération à la fin du primaire, puis à la fin du secondaire. Avec l'enseignement supérieur, il est devenu plus complexe de définir un objectif égalitaire. Des idéologies prétendument fondées sur l'égalité des chances, mais visant en réalité surtout à glorifier les mérites des gagnants du système éducatif, se sont développées à vive allure, avec pour conséquence des répartitions particulièrement inégalitaires et hypocrites des places et des ressources. L'incapacité des sociaux-démocrates à convaincre les classes défavorisées qu'ils se souciaient de leurs enfants et de leur éducation autant que de leurs propres enfants et des filières élitistes, peu étonnante au demeurant puisqu'ils n'ont jamais véritablement développé de politique juste et transparente en la matière, explique sans doute pour une large part pourquoi ils sont devenus le parti des diplômés. Je tenterai, dans la dernière partie de ce livre, d'analyser sur ces différentes questions les leçons qu'il est possible de tirer des expériences historiques disponibles et les dispositifs institutionnels permettant d'aborder les conditions d'une propriété juste, d'une éducation juste et d'une frontière juste. Ces conclusions doivent être prises pour ce qu'elles sont, quelques leçons imparfaites, fragiles et provisoires, permettant de dresser les contours d'un socialisme participatif et d'un social-fédéralisme fondé sur les leçons de l'histoire. Je veux surtout insister sur ce qui est l'un des principaux enseignements du récit historique qui va suivre et qui constitue la trame principale de ce livre. Les idées et idéologies comptent dans l'histoire, mais elles ne sont rien sans le truchement des logiques événementielles, des expérimentations historiques et institutionnelles concrètes et souvent de crises plus ou moins violentes. Un point paraît certain, compte tenu de la transformation profonde de la structure des clivages politiques et électoraux depuis les années 1950-1980, il est peu probable qu'une nouvelle coalition égalitaire puisse un jour émerger sans une redéfinition radicale de ses bases programmatiques, intellectuelles et idéologiques.